Je vous invite à prendre votre Bible à Jean 21. Nous lirons les versets 1 à 12. Jean 21, versets 1 à 12. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. »
Chers amis, aujourd'hui nous avons un prédicateur qui est pas connu par la totalité des membres de l'Église de la Marie parce qu'il n'habite pas la France. Il habite la Suisse. C'est Reto Meyer, et Reto Meyer est le représentant de la division nord-africaine. Il est trésorier adjoint dans cette division. Et c'est lui aujourd'hui qui partagera le pain de vie avec nous, la parole de Dieu. Alors vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi l'Église de Damarie est-elle allée chercher un membre de la division pour prêcher? N'a-t-on pas dans notre communauté suffisamment de prédicateurs? C'est vrai que Damarie est riche de prédicateurs. Alors, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant, parce que si vous voulez le savoir, je vous invite à venir cet après-midi et vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas l'Église de Damarie ici, si elle est présente, c'est quelque part parce qu'il y a eu des gens en Suisse qui un jour ont fait un pari. Mais sans plus attendre, je vais quand même laisser la parole à Reto. Il devait être accompagné de son épouse. Elle n'a pas pu venir, nous le regrettons, mais nous passerons une agréable journée avec Reto et un agréable moment dans le message qu'il a à nous donner. Merci Reto.
C'est effectivement un plaisir pour moi que de partager ce sabbat avec vous. Et c'est vrai que vous auriez certainement assez de pasteurs compétents ici à Damarie pour partager ce moment de méditation. Eh bien, c'est un plaisir et une joie d'être là. C'est aussi rempli d'émotions. Et les chants que nous avons chantés tout à l'heure ne sont pas aussi innocents que ça dans mon cœur ce matin. Donc, c'est un petit peu d'émotion que j'ai en me rappelant ce que le Seigneur a fait pour moi, pour nous, que j'aimerais partager ces moments. Bruno Vertalier vous transmet ses plus chaleureuse salutation. Bruno Vertalier est président de la division. Il n'a pu être là aujourd'hui. Il vous souhaite une journée heureuse, un anniversaire béni, et que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. Bruno et toute l'équipe de la division vous transmet donc ses salutations. 90 ans. 90 ans en Suisse. 90 ans, que d'années passées. Et quand je regarde ce chiffre, je dois penser à mon grand-père. Et oui, 90 ans, c'est ce qu'il avait il y a quelques années, il est décédé depuis. Un homme sage, un homme qui a atteint une certaine maturité, un homme qui était engagé dans l'Église toute sa vie, qui aimait le Seigneur, un homme plein d'entrain, même à 90 ans. Mais quand on atteint cet âge, on est partagé malgré tout entre l'envie d'aller de l'avant est la réalité de la vie. Les handicaps de la vie est la réalité de la vie. Les handicaps de la vie. Mon grand-père était un passionné de jardinage. Il en a fait sa profession parce qu'il disait « c'est la seule profession qu'on pourra exercer au ciel ». Mais il était aussi jardinier une fois à la retraite. Il avait sur sa propriété un grand jardin, il donnait à tout le monde ses carottes, ses salades, ses propriétés, un grand jardin, il donnait à tout le monde ses carottes, ses salades, ses pommes de terre, etc. Et petit à petit, les années avançant, le jardin devenait plus petit. Il n'arrivait plus. Jusqu'au jour où, pour finir, le petit bout de jardin qui restait, eh bien, on y a mis du gazon, parce qu'il ne pouvait plus. 90 ans, c'est cet âge-là, plein de sagesse, plein d'envie d'avancer, et puis d'un autre côté, eh bien, on sent les marques laissées par les années, les traces laissées par la vie. Et je pense, au-delà du parallèle que l'on peut faire, qui est bien sûr toujours un petit peu limité dans les exemples que l'on prend, c'est également ce qu'une église a dû vivre. C'est une église, ce qu'elle vit. 90 ans, c'est une église qui a une certaine sagesse, une expérience de vie, qui a beaucoup vécu de belles, de bonnes choses, mais aussi probablement des années de tristesse. On a perdu des compagnons de route, on a eu des échecs. Et quand on regarde en arrière, on souffre parfois de ce qui a été vécu. Mais d'un autre côté, on est plein d'entrain. On se dit dans 10 ans, si le Christ n'est pas revenu, ça sera. On se dit dans 10 ans, si le Christ n'est pas revenu, ça sera le centenaire. Si le Christ n'est pas revenu, ça sera le centenaire. Et pour ceux qui aiment le football, vous savez qu'il y a une équipe de football en Italie, il y a Juventus de Turin, que l'on appelle, parce qu'elle est centenaire, la vieille dame, avec tout le respect qu'on doit à ce club. Mais c'est un petit peu une réflexion sur l'arrière, le passé et l'avenir que j'aimerais faire ce matin en vous invitant à reprendre ce texte que nous avons lu dans Jean 21. Le contexte de l'évangile de Jean dans ces deux chapitres 20 et 21 est particulier. Particulier parce que Christ vient de ressusciter. Et l'histoire qui se passe ici, avec Pierre, est une histoire qui se passe quelques semaines après la résurrection du Christ. Pierre est une histoire qui se passe quelques semaines après la résurrection du Christ. Pierre, semaines après la résurrection du Christ. Pierre, avec quelques disciples, décide un jour d'aller pêcher. Et cela me surprend. Cela me surprend terriblement. Voilà un Pierre qui passe plus de 3 années auprès du Christ. Pierre qui est Pierre, c'est-à-dire un homme plein de fougue, plein de rage de vie, qui a ses idées, qui a son comportement propre à lui, qui vient de voir le Christ mourir, qui a vu le Christ ressuscité et qui un jour décide avec ses collègues disciples ou une partie d'entre eux d'aller pêcher. Pour moi, il y a un paradoxe énorme. C'est comme si j'avais trouvé mon premier amour et puis dans cette phase de premier amour, je décide d'aller voir un film au cinéma avec mes copains ou un match de foot avec mes copains. C'est un petit peu ce paradoxe que je ressens ici chez Pierre. Pourquoi ? Que se passe-t-il dans l'esprit de Pierre pour se dire ce matin-là, Pourquoi ? Que se passe-t-il dans l'esprit de Pierre pour se dire ce matin-là, j'aimerais aller pêcher ? Pour prendre des termes que l'on connaît un petit peu plus aujourd'hui, cela peut être une petite déprime, une situation de choc, un homme qui ne sait tout simplement plus où il en est. Le Christ a expliqué des choses. Il leur a montré dans quelle direction aller. Il leur a dit des choses même très clairement. quelle direction aller. Il leur a dit des choses même très clairement. Et là, tout d'un coup, les choses se sont réalisées, les événements se sont précipités, Christ est mort, il est ressuscité. Et Pierre, avec son esprit et ses collègues, doivent essayer de comprendre et de mettre en place tous ces événements, les ordrer d'une manière ou d'une autre. Et quand on ne sait plus où on en est, on fait des choses que l'on connaît. Quand on est découragé, quand on est déprimé, quand on est en perte de vitesse dans la vie quotidienne, eh bien pour essayer de se changer les idées, on fait des choses que l'on connaît, que l'on sait faire, où l'on doit même plus réfléchir à faire cela. Et je crois que Pierre se trouve dans cet état-là. Pierre décide d'aller pêcher, et il y a un verset au chapitre... de l'évangile de Jean, au verset 9e, qui dit ceci, juste après la résurrection du Christ. « Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. » Cela nous montre bien qu'il n'avait pas tout saisi, que ces événements étaient tellement forts, étaient tellement déstabilisants, que Pierre était en situation de recherche, de se remettre en question. Il va donc pêcher. C'est un professionnel. Donc il sait à quel moment il faut aller, il sait dans quelle direction aller. Mais cette nuit-là, nous lit le texte, ils ne prirent rien. Pas un poisson. Vous savez, ce sont ces jours, ces semaines qui se produisent dans notre vie, on a l'impression que rien n'avance, que tout va mal. On est déprimé et on fait quelque chose et mince, situation d'échec. Un Pierre qui est en situation d'échec. L'échec vous connaît en situation d'échec. L'échec, vous connaissez, je connais. Rater un examen, rater une entrée dans un lycée, dans un collège, ne pas pouvoir obtenir une place, l'échec professionnel, l'échec dans les relations que l'on a avec l'un, avec l'autre, avec son conjoint. Tout ça sont des éléments que nous connaissons. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, quelle est notre réaction première dans ce genre de situation ? On essaye d'inclure Dieu dans notre comportement, dans notre réflexion. Et très souvent, quelque chose de très naturel qui se passe, c'est « Mais Seigneur, tu es où ? J'ai pourtant prié pour que les examens se marchent bien. J'ai pourtant fait ceci, fait cela, pour que je puisse réussir. Et malgré tout, je rate. Pourquoi ? Et on essaye de mettre la faute sur Dieu. On essaye de lui reprocher de ne pas être présent dans notre quotidien. On découvre tout d'un coup un Dieu qui est lointain, un Dieu qui ne semble pas s'intéresser à nous. Mais essayez de toute objectivité, si on arrive à le faire, d'analyser une situation d'échec que vous aviez. Est-ce que l'échec, est-ce que la souffrance, est-ce que la douleur de l'échec n'est pas si forte qu'elle ne nous permet pas de voir que le Christ est présent ? Nous verrons trois autres exemples ce matin dans lesquels les émotions que nous dégageons, les émotions que nous vivons sont parfois tellement fortes qu'elles ne nous permettent pas de voir la présence du Christ. Parce que quand vous regardez cette image de la pêche, des disciples avec sur le bateau, sur ce lac, il y a un élément qui est important. Il se trouve au verset 4e. Il est dit ceci, « Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était le Christ. » Le Christ n'est pas loin. Le Christ est debout sur le rivage, il regarde la scène. Il est participant, même éloigné, mais il est participant. Et ce qui est intéressant, et que la Nouvelle Bible Second semble... vouloir transporter dans ces deux chapitres 20 et 21, c'est cette notion d'être debout. Être debout, si je ne me trompe pas, je ne suis pas du tout un linguiste et un spécialiste du grec, mais semble être de la même racine que le verbe ressusciter. Et donc il y a un lien entre ce chapitre 20, verset 10, où il est dit « Il n'avait pas encore compris qu'il s'était relevé des morts » avec le Christ debout au bord de la plage. Quand nous sommes en situation d'échec, Christ est à nos côtés. Il est debout. Et ce n'est pas simplement le personnage, entre guillemets, normal du Christ qui est là, c'est le Christ ressuscité, le Christ qui a vaincu la mort, le Christ qui est revenu à la vie. C'est ce Christ-là qui est à mes côtés. L'échec restera, mais il me permettra, par sa présence, par la prise en compte de sa présence, de pouvoir construire quelque chose avec cela. Un autre moment difficile pour les disciples, ou plutôt pour l'un d'entre eux, Thomas, quelques versets plus haut, chapitre 20. Vous connaissez cette histoire de Thomas. Thomas, cet homme incrédule, cet homme qui disait « Je dois voir, je dois toucher le Christ pour croire. » Bien, Jésus est Christ pour croire. Bien, Jésus est ressuscité, il rencontre les disciples dimanche soir. Thomas n'était pas là. Et durant la semaine, les disciples croisent Thomas. Et ils ne peuvent pas se taire, ils lui disent « Écoute, on a vu Jésus, on a vu le Christ. » Et Thomas ne croit pas que le Christ était là. Il n'a pas cru ses collègues qui ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi. C'est comme si votre frère et sœur d'église vous disait quelque chose et vous lui dites « Ça, je ne crois pas, cette expérience n'est pas possible. Il faut que je la touche, il faut que j'aie moi-même cette expérience pour y croire. » Thomas ne croit pas. Il doute. Il a besoin de certitude, il a besoin de connaître, de toucher. Et le soir, ce soir-là, une semaine après la résurrection du Christ, il se retrouve avec les disciples. Et le texte nous dit ceci, au chapitre 20, verset 26e. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Le doute est une émotion qui nous habite. Les incertitudes de la vie nous habitent. Mon grand-père en avait aussi. Un jour, alors que je revenais d'une convention pastorale sur le thème de l'Apocalypse, il m'a abordé et m'a dit « Écoute, Reto, ce qu'on a appris jusqu'à présent, est-il bien toujours juste ?» Il avait peur, qu'on lui enlève quelque chose qui lui fasse perdre son identité. Alors bien sûr, dans les grandes lignes, c'était ce qu'il avait toujours appris. Il y a peut-être dans les grandes lignes, c'était ce qu'il avait toujours appris. Il y a peut-être dans la théologie des choses qui ont bougé, qui ont évolué dans la compréhension. Mais il y avait ce doute lié à la foi, qui peut être une composante de notre vie. Mais nous avons d'autres doutes, sur notre propre personne peut-être. Des doutes sur la direction que nous devons choisir. Bref, il nous faut parfois des certitudes. Il nous faut parfois toucher avant de croire. Ma fille, récemment, a trouvé une petite place de travail pour cet été. Et j'avais reçu une confirmation de la personne qui allait l'engager pendant 2 ou 3 mois. Je lui ai dit, ça, le contrat ou la lettre va arriver. 2 semaines après, pas de lettre. Papa, t'es sûr que ça marche? Je dis oui, elle m'a dit, la personne, ça ira. Le doute s'installe. On a beau lui dire quoi que ce soit, non, il fallait qu'elle voie la lettre de l'entreprise dans laquelle elle pouvait travailler pour croire. Le doute nous habite quotidiennement. Et dans ce genre de situation, quelle est la réponse du Christ? Il se tient là, debout, au milieu des disciples, au milieu de mon doute. Ce Christ debout, ce Christ ressuscité, ce lieu de mon doute. Ce Christ debout, ce Christ ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui est revenu à la vie. C'est ce Christ-là qui est à mes côtés. Autre exemple. Premier soir du jour de la résurrection du Christ, les disciples sont ensemble, chapitre 20, à partir du verset 19e. Ils sont ensemble dans la chambre haute et ils ont peur. Peur que les Juifs viennent les prendre pour les mettre en prison, leur faire du mal. Donc ils ferment la porte à clé. Le sentiment de peur est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on doit se rendre chez le médecin pour des examens, comme j'ai eu à le faire en début de cette année, on n'y va pas tranquille, tranquille. On se dit, peut-être ils ne trouveront rien, mais peut-être ils trouveront quelque chose là où on n'avait pas pensé. Donc on a des craintes, on a une peur de ce qu'on va nous dire. Mais il y a bien sûr d'autres peurs dans notre vie. Et là aussi, le texte nous dit, Jean chapitre 20, verset 19e, « Par crainte des Juifs, les disciples étaient réunis, Jésus vint debout au milieu d'eux. » De nouveau ce Christ debout qui accompagne les disciples dans leur cheminement. Lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils doutent, accompagne les disciples dans leur cheminement. Lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils doutent, lorsqu'ils sont en échec. Mais il y a encore un dernier élément. Et cette histoire me fascine quelque part parce que je n'arrive pas à comprendre cette notion-là. Jésus se présente à Marie qui vient au tombeau. Et reprenons ce court passage du chapitre 20 où il est dit ceci, verset 13, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. La souffrance de cette femme devait être très forte. Je ne vais pas entrer en matière sur la personne de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement ? Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. J'en reste à ce que je lis dans le texte. Cette femme souffre. Elle vit un deuil, une séparation. Et elle n'est pas à même de reconnaître celui qu'elle a aimé, celui qu'elle a servi. Vous imaginez-vous les larmes qu'elle devait avoir? Et parce qu'elle pleurait tellement, ses larmes ne lui permettaient pas de voir le Sauveur. Quand on souffre d'une séparation, quand on souffre parce qu'on a vécu quelque chose de très fort face à une personne qui nous quitte, dans une relation même amicale, dans une relation de couple, quand on souffre dans notre propre chair, nos larmes sont parfois tellement épaisses qu'elles ne permettent pas de voir Christ debout à mes côtés. Et un autre élément est, pardonnez-moi si je froisse peut-être une ou deux personnes qui peuvent souffrir ce matin, mais quand on souffre, on est parfois injuste avec l'autre. Parce que nos larmes sont tellement épaisses, on a l'impression qu'on est au centre du monde et c'est une certaine normalité humaine, je dirais. Mais on ne laisse plus à l'autre la possibilité de nous apporter une aide. Tu ne peux pas comprendre, dira celui qui souffre parce qu'il a perdu son enfant. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas vécu cela. C'est un fait qu'il a perdu son enfant. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas vécu cela. C'est un fait. C'est évident. Mais l'autre peut m'apporter quelque chose. Dans une période difficile de ma vie, où j'ai vécu une séparation, j'allais à l'église et je culpabilisais l'église en disant « mais ils ne font rien pour moi, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils veulent me dire des choses, mais ça passe mal, ça, je l'accueille mal. » Jusqu'au jour où un homme s'approche de moi, une quinzaine d'années plus âgé que moi, il s'approche alors que je visitais cette église. Et il me dit, « Ah, frère Meyer, j'ai entendu ce qui vous arrive. Je ne sais pas quoi vous dire. Je souffre avec vous. Je suis avec vous. Mais j'aimerais vous donner un signe qui vous permet de comprendre que je suis avec vous. Vous savez quel a été ce signe ? D'une simplicité énorme. Il m'a tout simplement proposé le tutoiement. Je m'appelle André et on se tutoie. D'une banalité. Mais quand on souffre, chers amis, on a besoin de petits signes de ce type-là. On ne peut pas s'improviser des psychologues à tout bout de champ. Mais celui qui veut aider, sachez que des petits gestes peuvent faire du bien. Et donc nous voyons cette femme avec ses larmes plein les yeux qui ne reconnaît pas le Christ. Je reconnais que parfois je me reconnais dans Marie. La souffrance, la peur, le deuil, l'échec, le doute, tout cela sont des émotions que nous vivons individuellement, mais ce sont des émotions aussi qu'une communauté vit ensemble. Comment réagissons-nous ? Nous essayons de faire de notre mieux. Mais Christ, où est-il ? Sommes-nous conscients, comme nous l'avons vu dans toutes ces histoires, que le Christ est là, debout, à côté de nous ? Ce Christ ressuscité, ce Christ qui a vaincu la mort et qui est revenu à la vie ? Cette histoire ou ces histoires sont un résumé de mon histoire, de votre histoire. Mais cette histoire est encore plus belle. Parce que si nous en revenons à notre évangile de Jean au chapitre 21, si j'ai lu ou fait lire ce texte, c'est parce que l'élément essentiel se trouve dans ce passage-là. Le Christ nous accompagne. Le Christ est avec nous. Le Christ est debout, il nous conduit. Et là, c'est une histoire particulière que nous voyons à partir du verset 9e. Mais lisons le verset 10. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des 10. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Donc il y a eu cette situation d'échec, aucun poisson pris. Jésus va leur dire, jetez votre filet de l'autre côté. Là, réussite. Ils pêchent les poissons. Le texte nous dira 153. Et Jésus les invite à apporter quelques poissons. Parce qu'ils allaient déjeuner. C'était tôt le matin et ils voulaient prendre leur petit déjeuner. Là encore une fois, il y a un paradoxe dans cette histoire. Nous avons lu le verset 10, mais que dit le verset 9 ? Lorsqu'ils furent descendus à terre, les disciples voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. La demande du Christ, je vais l'exprimer comme ça, ne servait à rien. Tout était prêt. Le feu était prêt, le poisson était en train de griller, le pain était là, tout était fait, tout était prêt. Il leur a demandé de s'approcher, de venir manger. Quel message puissant, chers amis. Tout est accompli. Vous êtes dans un moment de difficulté? Sachez que le tunnel prend une fois fin. Non pas parce que la vie le veut ainsi, mais parce que le Christ vous a préparé un feu de braise derrière le tunnel. Il l'a fait pour moi à plusieurs reprises. Et ce passage me touche parce qu'il me fait se rappeler des éléments de ma vie très forts, très douloureuses parfois. Et le Christ prépare un feu au-delà du tunnel. Tout est là. Il y a le feu, l'élément de chaleur, la chaleur qui nous unit au Christ. Il y a cette notion de nourriture quotidienne que nous avons. Ne vous faites pas de soucis, vous aurez à manger. Et puis, il y a le pain, ce pain de vie qui peut-être symboliquement représente le corps du Christ et qui est dit, je suis mort pour vous, je suis ressuscité pour vous, venez tout simplement, je suis ressuscité pour vous. Venez tout simplement à moi tel que vous êtes. Ah, chers amis, quel merveilleux sauveur nous avons. Il n'est non seulement à côté de nous, debout, ce Christ ressuscité, ce Christ qui a vaincu la mort, qui est revenu. Ce Christ ressuscité, ce Christ qui a vaincu la mort, qui est revenu à la vie. Mais ce même Christ. Vaincu la mort, qui est revenu à la vie. Mais ce même Christ prépare notre lendemain. Ce Christ me précède. Il me précède en tant qu'individu, mais il me précède aussi en tant que communauté. Il sait de quoi demain sera fait. Il connaît nos luttes, il connaîtra nos difficultés, il connaîtra nos joies, mais ce qui est sûr, c'est que dans toute démarche, il va nous précéder. Oui, chers amis, ce matin, en tant qu'individu, et en tant qu'Église, vous n'avez qu'à répondre à une seule chose. C'est à l'appel et à l'invitation du Christ, du verset 12 de chapitre 21. Venez, mangez. Amen.